À l'ordre du jour ce soir, cette question sur qui doit peser l'augmentation du coût de la vie. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre a évoqué cet après-midi les rêves qu'une génération a appris à ne plus porter, trouver un emploi stable, acheter un logement, fonder une famille, faire des sacrifices, mais acceptables s'ils servent à l'ascension de leurs enfants. Il n'y a pas de réponse simple, a-t-il dit, mais il y a des espoirs à raviver. L'inflation qui touche depuis 2 ans les biens de première nécessité, le logement, les transports, a en effet sérieusement amputé les espoirs non seulement des plus modestes, mais aussi des classes moyennes. Mais le déverrouillage de la société proposé par Gabriel Attal, tout comme la débureaucratisation ou la désmicardisation, sont-ils des outils pour améliorer le coût de la vie quand le bouclier tarifaire, par exemple, disparaît? Quels sont les leviers permettant de compenser la baisse du pouvoir d'achat des Français et des Françaises les plus touchés? Nous allons en discuter avec nos 3 invités. Hélène Périvier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste à l'OFCE Sciences Po, présidente du Conseil de la Famille et vice-présidente du Haut Conseil de la Famille et de l'Enfance et de l'Âge, le HCFEA, dont la mission est d'animer le débat public sur les politiques publiques en direction des familles. Avec nous également Louis Morin, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de l'Observatoire des inégalités du Centre d'observation de la société. L'Observatoire des inégalités vient de mettre à jour justement son comparateur des salaires. On en parlera avec vous. Enfin, 3e invité, Nicolas Marquez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de l'Institut économique Molinari.
Alors, il y avait aussi dans le discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal cette question, il y a trop de travailleurs proches du SMIC, beaucoup trop important cette catégorie par rapport aux autres pays voisins. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée qu'il y aurait trop de travailleurs proches du SMIC, Nicolas Marquez, et qu'est-ce que ça dit justement de sur qui doivent porter les efforts d'une augmentation du coût de la vie et qui devrait donner plus peut-être et d'autres donner moins?
En fait, ça dit pas grand-chose. Mécaniquement, aujourd'hui, il y a 17% des personnes qui sont au SMIC, parce que le SMIC a été réévalué au gré des augmentations du coût de la vie. Mmh. Il est réévalué automatiquement, il a été réévalué 8 fois depuis 2021. Et concrètement, les autres salariés qui sont au-dessus du SMIC bénéficient de réévaluations moins régulières, puisque c'est les négociations qui sont annuelles. Et donc, comme on a eu une inflation significative, le nombre de personnes au niveau du SMIC a mécaniquement augmenté. Et c'est quelque chose d'assez cyclique. Dans les autres salaires vont augmenter prochainement au gré des négociations. Et donc, le nombre de personnes au niveau du SMIC va se dégonfler progressivement. Le vrai sujet, j'ai envie de dire, en tant qu'économiste, c'est notre capacité à créer de la richesse. Et c'est ça qui fait qu'on aura une capacité à augmenter les salaires. Et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur qu'est-ce que c'est qu'une classe moyenne. Aujourd'hui, vous êtes, par exemple, chauffeur de bus, vous avez un salaire en France qui est faible. Et si vous allez travailler en Suisse, vous aurez un salaire beaucoup plus élevé. Pourquoi ? Parce que globalement, dans l'économie suisse, il y a plus de capacité de création de richesse et donc il y a plus de capacité à rémunérer. Je vous donne un autre exemple. Les fonctionnaires... Attal a dit, on va faire des choses pour les rémunérer au mérite, ou autre. Mmh. Mais on est dans un pays, en France, qui a une grande difficulté à bien rémunérer ses fonctionnaires, parce que quand on regarde la dépense de personnel de l'État, 160 milliards par an, il y a 60 milliards qui vont aux retraites des anciens fonctionnaires, et seulement 100 milliards qui vont aux fonctionnaires en activité. Selon les choix économiques qu'on fait, on a plus ou moins d'argent à distribuer.
On propose même de changer la règle d'indexation de façon structurelle pour coller au SMIC, de sorte à éviter qu'en cas de choc inflationniste, eh bien, on ait une perte importante de pouvoir d'achat de ces prestations sociales.
Mais l'économiste qui est Nicolas Marquez va nous dire que ça va coûter énormément d'argent d'indexer
ainsi. Non, Emmanuel, je ne vais pas vous dire ça. Je vais vous dire qu'il y a l'aspect urgence et puis il y a l'aspect structurel. Parce que, vous l'avez dit, on a eu de l'inflation importée, notamment avec l'énergie. Mmh. Mais on a aussi l'inflation concrète chez nous, et elle a des conséquences très réelles.
Qu'est-ce que vous appelez l'inflation concrète, alors?
Par exemple, le coût du logement. Aujourd'hui, c'est 28% du budget des ménages, alors qu'à la Libération, c'était 11%. Ouais. Et aujourd'hui, le 28% du budget des ménages en France, c'est la dépense de logement, c'est 10% de plus que chez nos voisins. Pourquoi? En grande partie parce qu'on a tout réglementé. On a limité le foncier artificiellement, on a limité les permis de construire, On a eu une inflation réglementaire en termes de normes dans tous les sens, et c'est pas fini. Et donc, concrètement, le logement coûte beaucoup plus cher en ménage. Je vous donne un autre exemple.
Mais vous allez être content de l'annonce du Premier ministre, puisqu'il dit qu'il va promettre un choc d'offres pour répondre à la crise du logement, déverrouiller les secteurs et les territoires engagés pour le logement dans 2 semaines, avec l'objectif de créer 30 000 nouveaux logements d'ici 3 ans.
Alors, je suis content dans le premier volet. Il veut simplifier la réglementation. Les autres volets, il y a 4 autres volets, c'est très complexe. Et concrètement, il faut faire ça dans tous les domaines. Je vous donne un autre exemple. On finance exclusivement les retraites par la natalité, puisqu'on est intégralement en répartition, ou quasi intégralement en répartition. La natalité n'est plus là. Mécaniquement, ça a renchéri le coût des retraites, 28% des salaires bruts, et c'est moins de salaires nets. Donc, si on ne fait pas quelque chose pour changer ça, on aura un problème de pouvoir d'achat généralisé.
Eh bien, Hélène Périvier n'est pas d'accord du tout.
Absolument pas. On ne peut pas dire que la natalité finance les retraites. Ça, je pense que c'est vraiment un raccourci que je...
C'est celui d'Alfred Sauvy.
Je n'achète pas du tout.
Désolé,
pour
Hélène.
Plein de raisons, parce que je pense que ce qui compte pour financer une retraite, c'est d'abord le taux d'emploi, le taux de participation au marché du travail. Donc d'abord, il y a plusieurs... Effectivement, la question démographique est beaucoup plus large que la natalité. Je ne dis pas que la natalité n'a aucun effet, mais c'est un facteur parmi d'autres. Il y a aussi des facteurs, par exemple, comme la manœuvre issue de l'immigration, qui est aussi un point extrêmement important. Et puis, il faut aussi que les gens travaillent, parce que si vous faites des enfants, mais qu'ils n'ont pas d'emploi, vous n'aurez pas de moyens de financer votre aide. Donc, je pense que c'est important de ne pas caricaturer le débat. La question de la natalité est une question importante, mais on ne peut pas dire que c'est ça qui finance le système de retraite.
Nicolas Marquès et puis Louis Morin.
Je suis désolé, moi je n'ai fait que reprendre ce que disait Alfred Sauvy, le démographe et créateur de l'INED, et il disait...
Ça fait un peu longtemps.
Ce sont nos enfants qui font nos retraites. À l'époque, il y avait encore 3 enfants par femme. Maintenant, on voit bien les résultats. Et les endroits.
Les femmes travaillent davantage.
Oui, mais.
Je ne suis pas sûr que Paul-André Rosenthal, qui était ici à ce micro il y a une semaine, soit d'accord avec vous alors qu'il travaille à l'INED.
C'est clé. Et aujourd'hui, on a du mal à rémunérer bien les fonctionnaires parce qu'il y a 0,9 cotisants par retraité. Et clairement, dans tous les domaines où il y a peu de cotisants et beaucoup de retraités, il faut augmenter les taux de cotisation, ça réduit le pouvoir d'achat, ça réduit la compétitivité, et on a du mal à distribuer de belles retraites. On finance l'essentiel de nos retraites en répartition. On est dépendant de la répartition. Si on était un pays moyen dans les pays développés, il y aurait 1500 euros de plus par personne et par an, financés par les placements, par la capitalisation, et les dividendes et les plus-values. Et c'est quelque chose de significatif, parce que d'ailleurs, toute une série des Français disent « il y a trop de dividendes et plus-values, pourquoi on n'en profite pas ?» Bon. Et donc concrètement, ça c'est un choix structurel qu'on peut faire. Pareil, je reviens sur le logement. Si on était dans un pays moyen, avec une réglementation normale, pas excessive, le coût du logement, ça serait 1100 euros en moins par personne et par an. Et donc clairement, c'est des choses significatives qu'on peut faire. Et puis je vous donne un troisième exemple. On a beaucoup de fiscalité sur les entreprises, et cette fiscalité, finalement, elle est reportée sur les salariés avec des hausses de moins élevées. Si on avait une fiscalité moyenne sur nos entreprises, il y aurait 900 euros de pouvoir d'achat net en plus par salarié.
C'est-à-dire
ça, il faut le traiter.
Et quand on vous écoute, quand on entend un Premier ministre dire qu'il faut déverrouiller, il faut débureaucratiser, il faut dismicaliser, vous pensez qu'il ne va pas assez loin pour vous? En l'occurrence, il faudra aller beaucoup plus loin dans la libéralisation de l'économie.
Et pourquoi j'appelle la libération de mes voeux? C'est que si on libéralise les retraites, on aura plus de retraites avec moins de cotisations. Si on libéralise le logement, on aura moins de difficultés à se loger. C'est clair.
Nicolas Marquès.
Oui, je vais revenir sur les retraites parce que c'est clé. Les retraites, aujourd'hui, c'est un quart des dépenses publiques en France. C'est 14% du PIB. Et clairement, on est dans une impasse. Pourquoi? Parce que la retraite...
Pourtant, on vient d'avoir une nouvelle réforme des retraites, donc on ne peut pas être dans une impasse.
C'est quand la prochaine? On sait que la prochaine, c'est dans 2-3 ans, et la suivante, c'est dans 5 ans. Des réformes comme celles qu'on a eues, on en a eu tout le temps. Pourquoi on en a tout le temps? Parce que clairement, il y a moins d'actifs par rapport au nombre de retraités. Et les retraités vivent plus longtemps. Donc, la réponse du gouvernement et des gouvernements précédents, ça a été de dire « on va faire travailler les gens plus longtemps ». On a vu que ça ne marche pas très très bien. Et clairement, chez nous, on fait peser le financement de la retraite exclusivement sur le travail, sur les actifs. Ailleurs, on fait aussi peser ça sur l'épargne, on mobilise les dividendes, les plus-values. Tout à l'heure, Louis disait que le débat était tranché. Moi, ma référence en la matière, c'est Jean Jaurès qui disait en 1910, il faut généraliser la capitalisation collective, parce que c'est la meilleure façon de financer la retraite.
J'ai lu beaucoup de Jean Jaurès, mais j'avais pas lu ça. Mais en l'occurrence, je n'ai pas lu. Non, mais je vous crois, je crois simplement, j'ai pas lu cette.
Tant qu'on ne fera pas cette réforme systémique, on manquera d'argent public. Vous allez aux Pays-Bas, par exemple, les retraites sont financées à 2/3 par le travail, 1/3 par le fruit de l'épargne, les dividendes des plus-values. Et donc, il y a plus de salaire net, il y a plus de compétitivité et il y a plus de retraites. Et d'ici un demi-siècle, je suis désolé de me projeter dans le temps, on va avoir des retraités paupérisés si on ne fait pas cette réforme structurelle.
Donc, on a bien compris que c'était votre cheval de bataille, ce n'est pas exactement au cœur de notre propos.
Non, mais il faut traiter ces problèmes structurels. C'est pareil dans le logement, quand on ne traite pas les sujets, ils se rappellent à vous, et à la fin, on en est réduit à développer des politiques d'aide qui sont nécessaires, parce qu'on n'a pas traité les problèmes structurels. Le vrai problème en France, c'est le moteur de création de richesse. On l'a atrophié pendant des années, parce qu'on a une fiscalité anormale, qui a pénalisé le développement économique, et on l'atrophie aussi parce qu'on a une réglementation qui est mal conçue et qui se retourne contre les gens. Quand vous interdisez de construire, le coût du logement devient cher. Et après, il faut aider les individus. Quand vous détruisez de l'emploi parce que vous fiscalisez anormalement une entreprise, vous détruisez du pouvoir d'achat.
Mais interdire de construire, c'est aussi préserver des espaces des espaces naturels. C'est préserver
aussi. Bien
sûr,
mais il y a un dosage. Et la question, c'est la dose. Elle est fondamentale dans les sujets environnementaux, la dose de CO2. Mais la dose de réglementation, ça paupérise la collectivité. L'esprit de